Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il vous est bon que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Si je pars, au contraire, je vous l'enverrai. Chers fidèles, notre Seigneur est maintenant retourné à son Père. Par son sacrifice de la croix, nous avons été délivrés du péché. Délivré du pouvoir du démon, délivré de la peine due à nos péchés. Nous avons été réconciliés avec Dieu, et la porte du ciel qui était fermée depuis le péché d'Adam est maintenant grande ouverte. Cependant, dans le plan d'infinie sagesse de la Sainte Trinité, il n'était pas réservé à notre Seigneur de mener cette mission de salut à son terme. Il fallait qu'il retourne au ciel pour qu'avec le Père, il nous envoie le Saint-Esprit et que nous recevions ainsi en abondance les grâces méritées par son sacrifice. C'est au jour de la Pentecôte qu'a commencé cette nouvelle effusion de grâce sur l'humanité. Ceci nous amène bien sûr à parler du Saint-Esprit, puisqu'il a été spécialement manifesté en ce jour. Dans son catéchisme de la famille chrétienne, le Père Emmanuel explique ainsi la procession du Saint-Esprit. « Il y a en Dieu, dit-il, deux actes souverainement adorables. Un acte d'intelligence, par lequel le Père engendre son Fils, et un acte de volonté, par lequel le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Dans cet acte de volonté, le Père et le Fils se donnent tout entier par voie d'amour à la divine personne qui se nomme le Saint-Esprit. Telle est la vie de Dieu. Comme le Saint-Esprit procède de l'amour mutuel du Père et du Fils, toute la tradition lui a donné pour nom l'amour. L'amour, c'est le nom propre du Saint-Esprit. Ainsi, dans l'hymne « Veni Creator » des Vêpres, la Sainte Église a inséré ce verset en parlant du Saint-Esprit « Fons vivus ignis caritas ». Vous êtes la source vive, le feu, la charité. Ceci nous conduit maintenant à examiner l'action du Saint-Esprit en dehors de la Trinité, en commençant par une précision importante. En Dieu, il y a trois personnes, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Ce qui est produit en dehors de Dieu, que ce soit dans l'ordre naturel ou dans l'ordre surnaturel, tout cela est l'œuvre du Dieu unique, donc est commun aux trois personnes. Ainsi, ce sont les trois personnes qui nous ont créés et qui nous conservent dans l'existence à chaque instant, qui nous gouvernent par la providence, qui nous sanctifient, et qui habite dans notre âme par la grâce. De même, ce sont les trois personnes divines qui ont créé l'âme de Jésus, qui ont formé son corps et l'ont uni à son âme, et qui ont uni cette humanité de Jésus à la seconde personne de la Sainte Trinité, au Verbe. Si parfois ces actions sont attribuées au Saint-Esprit, c'est pour montrer qu'elles sont toutes une manifestation de l'amour de Dieu pour nous. On dit qu'elles sont du Saint-Esprit, parce que dans la Trinité, le nom propre du Saint-Esprit est l'amour. Mais ce sont des actions des trois. Cependant, cette action commune des trois n'exclut pas que de toute éternité, une personne divine ait été destinée à accomplir une mission spéciale dans le temps. Ainsi, la deuxième personne, le Verbe, qui a été envoyé par le Père et qui s'est incarné il y a 2000 ans, que les hommes ont pu voir et toucher. Ou bien encore, toujours le Verbe, qui vient habiter, mais cette fois invisiblement, dans notre âme, avec le Père et le Saint-Esprit. Ainsi, la troisième personne, le Saint-Esprit, qui a été envoyé par le Père et par le Fils, il a été manifesté de manière visible au jour de la Pentecôte, et avec le Père et le Fils, il vient faire sa demeure de manière invisible dans l'âme en état de grâce. Le cycle liturgique de Noël et le cycle liturgique de Pâques nous font célébrer spécialement la mission du Verbe incarné. La fête de la Pentecôte et le temps après la Pentecôte célèbrent surtout la plénitude de grâce qui s'est déversée sur le monde depuis que notre Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit avec son Père. Comment cela s'est-il passé ? Dociles à l'ordre de leur maître, les apôtres étaient en retraite dans le Cénacle depuis l'Ascension. Les Actes des apôtres nous disent que tous persévéraient unanimement dans la prière avec les saintes femmes et Marie, mère de Jésus. Cela faisait environ 120 personnes, c'est considérable, le Cénacle était un très grand local. Enfin arriva le 50e jour après la résurrection du Sauveur, en la fête de la Pentecôte juive. Le mot Pentecôte vient d'un mot grec qui signifie 50e. C'était le 50e jour après la sortie d'Égypte que Dieu a remis le décalogue à Moïse sur le mont Sinaï, c'est ce qui était fêté par la Pentecôte juive. Et en ce jour-là, en ce jour de la seconde Pentecôte, pouvons dire, eh bien cette fête nouvelle commémorera le fait que, eh bien, à la troisième heure, lorsque les disciples étaient dans le Cénacle, c'est-à-dire à 9h du matin, un bruit sonore, comme celui d'un vent violent, parti du ciel, retentit dans les airs, remplit la maison et se fit entendre dans toute la ville de Jérusalem. Puis des langues semblables à du feu, s'étant divisées à partir d'un foyer unique, vinrent se poser sur la tête de chacun, de la Vierge Marie d'abord, puis de tous les assistants. Ces signes sensibles voulaient montrer que le Saint-Esprit s'emparait de l'âme des apôtres pour renouveler par eux toute la face de la terre. Avant la Pentecôte, ils possédaient déjà le Saint-Esprit, dit saint Léon. En ce jour, ils le reçurent dans toute sa plénitude, avec des dons proportionnés à leur mission. Pour prêcher dans le monde entier, ils reçurent d'abord le don des langues, pour les parler toutes selon les occasions, ou pour être compris par des hommes parlant des dialectes différents, tout en ne parlant eux-mêmes, eux les apôtres, qu'une seule langue, comme au jour de la Pentecôte. La foule en fut stupéfaite. Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens ? Comment donc alors chacun de nous les entend-il s'exprimer dans sa langue maternelle ? Pour enseigner le monde, ils reçurent la pleine connaissance de la vérité, avec une assistance spéciale pour ne jamais tomber dans l'erreur. Avant la Pentecôte, leur esprit était trop faible pour pouvoir comprendre le plan divin de salut du monde, surtout un plan qui passait par la croix. « J'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner, leur avait dit notre Seigneur, mais vous ne pouvez pas encore les porter. » Mais lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toute la vérité. Pour confirmer leurs paroles, ils reçurent le don des miracles. Notre Seigneur leur avait prédit qu'ils en feraient de plus grands que les siens. Même l'ombre de Saint-Pierre guérissait les malades lorsqu'il passait à côté d'eux. Et comme bien sûr le démon leur susciterait bien des oppositions et contradictions, ils reçurent la force de prêcher jusqu'au martyr. Ils auront tous la gloire de le subir. Les apôtres se mirent donc à prêcher dans le monde entier, confirmant leurs paroles par des miracles, transmettant le Saint-Esprit par le baptême, la confirmation et les autres sacrements. Le règne de notre Seigneur s'est alors étendu peu à peu sur le monde, sur les sociétés, sur les familles, dans toutes les âmes de bonne volonté, apportant au monde des fruits de sainteté merveilleux, assistance aux pauvres, aux malades, aux malheureux. C'est l'Église qui a fondé les hôpitaux, les hospices, les orphelinats, instruction des peuples. C'est l'Église qui a fondé les écoles, les universités, Les monastères, les couvents se sont multipliés, une multitude de saints s'est levée. Quelle autre religion a été capable de produire de tels fruits et d'apporter tant de bénédictions au monde? Mais si tout cela s'est produit, c'est parce que le Saint-Esprit, avec le Père et le Fils, a transformé de l'intérieur les âmes de bonne volonté, en y produisant la grâce sanctifiante avec tout son cortège de vertus et de dons et en venant y habiter. Si d'ailleurs la sagesse divine infinie a voulu que cette effusion extraordinaire du Saint-Esprit ait lieu à partir de la fête juive de la Pentecôte, c'est parce qu'en ce jour, les Juifs célébraient la remise du décalogue à Moïse, nous avons dit, mais décalogue gravé sur des tables de pierre. Maintenant que notre Seigneur a réparé tous les péchés de l'humanité, une nouvelle loi peut être donnée aux hommes, qui ne supprime pas le décalogue, bien sûr, mais qui permet de le suivre plus facilement. Parce que cette loi nouvelle n'est pas gravée sur la pierre. Elle est gravée dans nos cœurs de chair, dans nos âmes. Cette loi nouvelle, c'est le Saint-Esprit, Dieu lui-même, qui vient dans nos âmes pour nous conduire de l'intérieur sur le chemin du ciel, en nous faisant pratiquer le décalogue et aussi, eh bien, les béatitudes, le sermon sur la montagne que notre Seigneur est venu enseigner, mais qui n'était pas possible à tous de pratiquer si facilement avant. Et c'est spécialement par les dons du Saint-Esprit que le bon Dieu conduit et guide les âmes pour leur propre salut et pour le rôle que chacune doit avoir dans l'Église et la société. Par le don de crainte, le Saint-Esprit nous détourne du péché, qui est le plus grand mal de l'homme. Par le don de piété, il nous incite à la prière, à l'union à Dieu par la prière. Par le don de science, il nous fait comprendre la vraie valeur des choses, nous préservant des mirages du monde. Par le don de force, il nous fait pratiquer la volonté de Dieu, quelles que soient les difficultés. Par le don de conseil, il nous permet de faire les bons choix dans notre vie. Par le don d'intelligence, il nous fait pénétrer les mystères de notre foi et nous en montre les conséquences pratiques. Enfin, par le don de sagesse, il nous donne le goût des choses de Dieu et nous fait juger de toutes choses comme Dieu les juge. Avec ces 7 dons, nous avons tout ce qu'il nous faut pour arriver au but de notre existence qui est le ciel. Rien ni personne ne peut nous nuire, puisque c'est le Dieu infini qui nous conduit et qui nous protège. Est-ce que ce n'est pas consolant, encourageant? Enthousiasmant, surtout aujourd'hui. Évidemment, tout cela n'est pas automatique. Le Saint-Esprit est toujours prêt à nous guider, mais il faut le prier et lui être docile, et être en état de grâce pour avoir les dons du Saint-Esprit. Bien sûr, le démon, qui est l'ennemi du plan de Dieu, a tout fait pour contrer l'action du Saint-Esprit, suscitant persécutions sanglantes, schismes, hérésies, dont l'Église, assistée par notre Seigneur, a toujours triomphé et dont elle triomphera toujours jusqu'à la fin du monde. Et à mesure que les siècles ont passé, le bon Dieu, dans sa providence, dans sa sagesse, a permis que l'action du démon soit toujours plus puissante. Après avoir renversé de fond en comble la société chrétienne à la Révolution, c'est à l'Église elle-même que les ennemis du règne de notre Seigneur se sont attaqués, en réussissant à pénétrer à l'intérieur. Dans son encyclique sur le modernisme, le pape Saint Pie X a pu écrire ces lignes très graves. « Les artisans d'erreur, il n'y a pas à les chercher aujourd'hui parmi les ennemis déclarés, ils se cachent dans le sein même et au cœur de l'Église, ennemis d'autant plus redoutables qu'ils le sont moins ouvertement. » C'est un pape canonisé qui parle. Et au Concile Vatican II, ils ont pris en main les commandes de l'Église. Alors, dans la confusion qui règne maintenant partout, dans le monde et dans l'Église, Gardons la foi des apôtres. Gardons les principes qui ont dirigé les apôtres après qu'ils aient reçu l'Esprit Saint et que l'Église, avec l'assistance du même Saint-Esprit, a gardé et expliqué infailliblement au cours des siècles, jusqu'à la révolution de Vatican II. On les trouve, par exemple, dans le catéchisme du Concile de Trente, qui est le meilleur catéchisme pour adultes qui devrait se trouver dans toute maison chrétienne. Lisons-le pour garder la foi. Et puisque ce sont surtout les sacrements qui nous donnent l'Esprit Saint, qui causent en notre âme une effusion de l'Esprit Saint, recevons-les fréquemment. Mais les sacrements tels que la tradition les a transmis de notre Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dire que les sacrements nouveaux sont toujours invalides, mais on peut se demander souvent, en voyant comment ils sont administrés, s'ils donnent vraiment la grâce. La grâce dont on ne parle plus dans l'Église conciliaire, d'ailleurs. Tous les dons du Saint-Esprit sont nécessaires pour arriver au ciel, mais il en est deux dont nous avons particulièrement besoin aujourd'hui. Le don de science, d'abord, qui a aussi pour rôle de protéger la foi et de nous faire reconnaître tout ce qui la met en danger. C'est ce don qui vous a fait venir à la tradition. Alors priez-le pour qu'il vous y garde. Et puis le don de force, le don des martyrs, qui donne la force de persévérer dans la vraie foi et dans la vraie vie chrétienne, et de témoigner de notre Seigneur, quelles que soient les oppositions. Demandons-les particulièrement à la Vierge Marie. C'est à sa prière que les apôtres ont reçu l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte. Alors demandons-lui de correspondre toujours plus à cette grâce du Saint-Esprit qu'ils ont transmise au monde en fondant l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.